Je voudrais faire un éloge du masque, le petit chirurgical, le beau FFP2, le catégorie 2, les en tissu, les fantaisies, les barrières, tutti quanti. Je voudrais faire cet éloge du masque qui nous protège des virus, mais aussi des images. À l'heure où tout est transparent, le masque résistant, c'est l'écharpe, c'est le foulard, c'est le fameux casque de robot en or ou argenté, grâce à qui sur le papier personne ne vous reconnaît. Faut voir comme il est frais, quand il déforme le visage, quand il fige les expressions. Il suffit du plus petit masque du monde, le nez rouge, pour grimer celui ou celle que l'on est. Ce qu'il nous dit, c'est que rien n'est tout à fait transparent, on est toujours masqué, on se plaît à dissimuler, on est tenté de cacher certains aspects de nos personnalités, si bien que le masque, en réalité, est porteur de vérité. Il révèle un trait privilégié, masque pour la santé, maquillage ou tatouage, masque de théâtre, de carnaval ou de super-héros, dont on finit toujours par savoir la véritable identité. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il cache, mais ce qu'il montre, en fait. Je voudrais faire un éloge du masque, parce que lorsqu'on décide de le porter, on est investi soudain d'une puissance insoupçonnée. Vous pouvez bien nous regarder, projeter sur nous tout ce que vous voulez, on vous a déjà échappé. Vous pouvez bien essayer de nous croquer, c'est pas vous, c'est nous, celles et ceux qui sont masqués, qui inventent, qui imaginent, qui créent et qui sont protégés.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est bel et bien masqué, ce qui ne l'empêche pas de donner de la voix. C'est par cette voix qu'elle s'est fait connaître en fleur de lys dans Notre-Dame de Paris, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Par cette voix qu'elle n'a jamais cessé depuis de se réinventer. Après une parenthèse salutaire, elle signe en 2021 un retour pop avec Refaire danser les fleurs, une célébration du son des années 70 et 80, tout en mélodie, tout en émotion. Bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Entre nous, vous vous êtes souvent masquée, vous ?
Plus que ça, oui. Je me suis beaucoup masquée, je me suis parfois déguisée. Et j'ai toujours voulu que ma voix soit la première chose qui transperce et qui transparaisse de moi avant le reste.
Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas qu'on vous voie ?
Parce que je pense que je voulais qu'on m'écoute plus qu'on m'entende ou qu'on me regarde. Je voulais qu'on m'entende.
Ouais. Vous pensez à quoi, à quel moment marquant dans votre carrière? Au début, hein, ne serait-ce qu'au début?
Bah, le début, Notre-Dame de Paris, dans mon rôle de Fleur de Lys, j'avais un solo, une chanson incroyable qui s'appelle La Monture.
Et vous êtes dans l'ombre, vous êtes voilée.
Ouais, je suis voilée. Ouais. Je suis voilée et à ma demande. Dans la mise en scène, normalement, j'étais censée être tout devant scène, avec un halo de lumière, et j'étais censée bouger un petit peu comme un papillon dans la lumière. Et je leur ai dit que je me sentais pas du tout à l'aise avec ça et que je voulais pas qu'on me voie. Et du coup, un grand tulle est tombé du plafond et j'ai chanté dans l'ombre comme ça pendant un an.
Pour autant, Julie Zenati, quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait être vue pour être entendue? Que c'est comme ça que ça marchait?
Je crois que je l'ai jamais compris. Non, je l'ai jamais compris. Alors quand, peut-être, si j'ai commencé à le comprendre, en fait, quand les gens ont commencé à me reconnaître, entre guillemets, dans la rue, parce que le succès de Notre-Dame était tellement fou, incroyable, et c'est vraiment le public qui a choisi ce spectacle, bien plus que les médias, ou c'est vraiment les gens qui se sont attachés à ces personnages. Et là, je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'entrais dans la vie des gens. Alors quand on commençait à trop me reconnaître, ben, je changeais de couleur de cheveux, je changeais de façon de m'habiller, je me maquillais différemment.
À ce moment-là, il a fallu faire la paix, alors, avec votre image.
Oui, oui, mais finalement, je crois que au-delà de la paix, c'est que j'ai toujours eu peur qu'on, comme on le disait au début, qu'on me regarde plutôt qu'on m'écoute. Pour moi, c'était important d'être écouté, d'être entendu.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Être surexposé ou l'être moins qu'avant ? Avec le temps. Ce que je suppose, c'est quelque chose, une question qu'on se pose aussi.
Oui, bien sûr, 22 ans, c'est long. 22 ans, c'est long. Non, je pense que j'aurais peur que la lumière s'éloigne. Ouais, j'aurais peur de ça.
En tout cas, ce qu'on comprend à vous entendre, c'est qu'un artiste, finalement, il n'est pas vraiment maître de son destin, que l'artiste, il contrôle pas grand-chose. Avec le recul, au bout de 25 ans de carrière, qu'est-ce que vous avez l'impression de contrôler, vous?
J'ai l'impression de contrôler ma voix aujourd'hui.
C'est quelque chose quand même.
C'est quand même un gros boulot, parce que c'est sûr que quand on commence, quand on a 17 ans, on veut prouver des choses, on en rajoute toujours un peu, et il a fallu que je calme et ma colère et mon impatience et ma fougue aussi pour pouvoir devenir amie avec cette voix qui a toujours été un peu plus grosse que moi finalement. Voilà. Et puis et aujourd'hui je contrôle entre guillemets ma créativité et ma création de bout en bout.
Alors la voix, d'abord on va l'écouter. Cette voix quand même, Julie Zenati. Cette voix, c'est celle d'une fleur de lys.
Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure, y a-t-il un cœur sous ton armure?
C'est aussi la voix d'une femme qui s'en remet à la vie.
Et la vie fait tout ce qu'elle veut, le pire, le mieux, le pire et le mieux. Oui, la vie fait tout ce qu'elle veut, le gris, le bleu, le gris et le bleu.
Mais c'est surtout, Julie, la voix de toutes celles et ceux qui cherchent à s'en sortir.
Mais si normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin.
C'est vrai que c'est ce qui frappe tout de suite, cette voix, quand même. Julie Zenati, quel instrument est-ce que c'est, en fait, pour vous?
Ah, c'est une quel instrument c'est, comment dire, la voix, ça demande à tout le corps d'être en éveil, ça demande à tous les muscles d'être en tension et en même temps de trouver de l'air et de la souplesse tout en étant raide. C'est très étrange comme instrument. Moi, je dis toujours que ma voix, parfois, je la perds ou elle me perd un peu parce que finalement, elle est le reflet de l'âme. Et la voix, c'est en même temps incontrôlable et en même temps, elle dit tout. C'est-à-dire que c'est très transparent, une voix.
Mais comment on fait pour s'assurer de la fidélité de sa voix, à défaut de s'assurer de la fidélité d'autre chose?
En étant, je crois, conscient que la voix, ça peut être un être un peu à part de soi. Je pense que quand on est bien aligné avec soi, la voix réagit à la façon dont on se sent, dont on prend les choses, ce qu'on ressent. La voix, c'est un peu une éponge.
Je veux dire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un instrument, la voix, qui, particulièrement en France, a longtemps été retenu contre les artistes.
Ah oui, bien sûr.
Derrière l'expression chanteuse à voix, oui, ou chanteur à voix, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez, vous?
Moi, j'ai beaucoup souffert de ce terme. moi, c'est fou parce que... Alors, en France, chanteur à voix, c'est vraiment synonyme de chanteuse qui beugle, quoi. De chanteuse en souffrance, chanteuse qui crie, dépressive, et pas forcément très intelligente aussi.
C'est-à-dire qu'il a fallu composer avec ça, avec cette image-là que vous ne vouliez pas renvoyer?
Oui, il a fallu que je compose avec ça, tout en étant fière aussi de cette voix qui, entre guillemets, est un don. Je chante effectivement pas tout à fait comme ma voisine.
Quatre octaves, Julie Zenati.
Oui, enfin, j'allais pas faire semblant de pas savoir chanter. Puis moi, vous savez, quand j'envoie des notes, etc., ça me fait un bien fou. On est très très proche de l'orgasme. Il y a quelque chose de... Pour moi, chanter, c'est assez vital, bien plus que de parler.
Il est arrivé qu'elle vous effraie, cette voix, Julie Zenati?
Ah oui. Oui, qu'elle m'effraie et qu'elle m'abandonne aussi. Elle m'a quittée une fois, en plein concert à Lille, au Théâtre Sébastopol. Je commence le spectacle et puis deux chansons se passent, troisième chanson, le pianiste commence à jouer et là, aphone, plus rien ne sort. Mais vraiment, c'est-à-dire alors que deux minutes avant, je chantais, j'envoyais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais fait ce qu'on appelle une hypotonie des cordes vocales, c'est-à-dire qu'elles se raidissent et elles ne vibrent plus.
Alors vous êtes partie, tout simplement ?
Non, je ne suis pas partie, parce que ce qu'on m'avait dit, c'était que quand les gens étaient rentrés dans la salle et que j'avais commencé le spectacle, à partir de ce moment-là, les gens ne seraient pas remboursés. Et donc, du coup, j'avais chanté 10 minutes et je me suis dit, je vais rester. Je suis restée, mes musiciens ont joué. J'avais la chance d'avoir des musiciens qui chantaient pas mal.
Et le public chantait aussi.
Le public chantait. Et il y a une très jolie scène, il y a une dame qui était tout au fond de la salle, qui s'est levée. Et puis qui a marché comme ça tout le long de l'allée. Elle est montée sur scène et elle a chanté une chanson. Et en fait, on a tenu une heure comme ça, où en fait, moi, je tapais des mains, je dansais, il y avait des petits sons qui sortaient. Mais c'est les gens qui ont fait ce spectacle. C'était assez fou.
À l'inverse, quelle a été votre plus belle note?
Ma plus belle note. Je pense que c'est Si je m'en sors. C'est cette chanson-là et ce moment où je chante pour la première fois la chanson et je ressens un sentiment que je n'ai jamais ressenti en chantant, une libération.
Celle qui n'atteint pas la note dans cette émission, vous la connaissez Julie, c'est pas faux pourtant de la chercher, c'est la culture et son actualité affonne depuis de longs mois en ce moment. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 23 février ?
La spécificité de notre musique et de notre travail, c'est qu'il y a une vraie interaction entre la musique et la technologie, en fait. Où la technologie et la technique est d'une certaine façon membre du groupe à part entière et presque un membre invisible. There are so many things that I don't understand.
Les Daft Punk, 1993-2021. Rideau sur la vidéo, après 28 ans de bons et loyaux services, l'un des plus éclectiques vidéoclubs parisiens, Vidéosphère, vient de mettre la clé sous la porte. Salle au trésor du 7e art, l'emblématique enseigne qui nous aidait souvent, nous aussi, à construire des sonores et à rythmer les émissions d'extraits de films rares, n'a pas résisté à la pandémie après 10 ans d'effritement de ses recettes et le refus de subvention. Pour sauvegarder sa collection, le propriétaire des lieux, Henri Moisan, a décidé de faire don de ses 20 000 VHS et 35 000 DVD à la Bibliothèque Nationale. Tous les 200 personnes. Sapé comme jamais, au musée, 34 tenues d'Étienne Dao vont rejoindre les collections du Palais Galliera à Paris. Costumes de scène ou de ville, vestiaires ô combien pop-rock, datés de 1983 à 2019. Les donations au musée de la mode rassemblent vêtements iconiques et pièces cultes de la carrière du chanteur, comme cette marinière Saint-James portée sur la pochette de l'album La Notée, ou encore cet indémodable Perfecto, immortalisé par Pierre et Gilles. Au cintre également du Diorome, du Saint-Laurent, du Céline, qui illustre l'éternelle complicité entre le chanteur et le créateur Eddy Slimane, bam! Et enfin Tate, baissé, la ville de Londres abandonne son chantier de Tate moderne de la musique classique. Le projet chiffré à 288 millions de livres sterling n'a pas résisté aux crises provoquées par le Covid et le Brexit. Pensé à l'origine comme le pendant britannique de notre philharmonie, le bâtiment devait accueillir une salle de 2000 places en plus d'un club de jazz et de plusieurs restaurants, cafés, espaces d'activité. Il aurait également dû servir d'écrin de verre et de lumière pour l'orchestre symphonique de Londres qui restera finalement au Barbican Center. Et la chanteuse Julie Zenati, invitée de Boomerang ce matin pour parler de renouveau avec ce 9e album qui s'appelle Refaire danser les fleurs. À quel moment avez-vous eu le sentiment que les fleurs s'étaient arrêtées de danser, Julie? C'est ça la vraie question.
Mais oui, bien sûr. Je crois que les fleurs ont toujours dansé, mais parfois elles dansent de façon un peu gauche. Parfois elles se fatiguent un peu parce que le temps passe. Et j'avais envie de leur remettre un petit coup de fraîcheur et de peps. Et puis de se dire aussi que, enfin, on sait que les fleurs, ça repousse partout. C'est-à-dire que ça repousse sur les douleurs, ça repousse après des tempêtes, des catastrophes. Il y a toujours la nature qui reprend ses droits, et c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire que je crois que j'ai repris le droit d'être l'artiste que j'avais envie d'être.
Évidemment, vous parlez de vous, si tant est que vous soyez une fleur. Après tout, vous avez été fleur de lys.
Ah oui.
Qu'est-ce qui, à coup sûr, vous fait danser, vous, à chaque fois?
Mon mari.
C'est trop d'informations. Il est 9h21.
Oh, bah oui, je sais, je sais.
Et puis le rap, quand même.
Évidemment, mais oui, mais tout à fait.
Mais alors, quel rap, précisément?
Ah bah, le rap, là, du coup, ça fait un peu vintage, hein, maintenant. Mais,
on a le même âge, hein, vous pouvez y aller.
Je peux y aller. Bah, je sais pas, enfin, évidemment, IAM, le Wu-Tang Clan, après, dans des trucs plus chantants, qui sont plus de R&B, Mahdi Blige, Eric Abadou.
Et vous pensez à quoi, là, tout de suite? Quel morceau de rap vous vient immédiatement à l'esprit?
Bah là, tout de suite, je dis petit frère de d'IAM.
Ça faisait quoi?
Petit frère a déserté les terrains de jeu, il marche à peine et vint des potes de cette lieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
Mais pourtant, vous n'avez jamais rappé, si?
Ben non, on m'a pas donné l'occasion. Hein.
Mais vous l'avez presque prise, l'occasion. Ouais. En l'occurrence, on n'est jamais au bout de ses surprises avec Julie Zenati. La dernière fois que vous vous êtes surprise, tiens, vous, c'était quand?
La dernière fois que je me suis surprise...
Me dites pas avec mon mari, ça va, là.
Oh non, ça va, pas de truc personnel. Hein. La dernière fois que je me suis surprise d'accepter de faire une émission assez bizarre où j'étais déguisée en panda.
C'est des Masked Singers.
Oui, oui, je l'ai fait. I did it.
On revient à cette idée du masque, cela
bah,
dit.
Oui,
c'est peut-être
voilà.
Pour ça que vous l'avez accepté.
Mais c'est pour ça que j'ai accepté.
Et vous regrettez rien?
Alors, absolument pas. Moi, j'adore faire partie des premières fois. Notre-Dame, première fois. Masked Singer, première fois. Et j'ai kiffé être ce petit panda parce que j'ai pu faire la boulette de Diams. J'ai pu être une grande chanteuse à voix qui utilise toutes ses possibilités vocales et hurler derrière mon masque. Et personne ne m'a dit, elle fait des grimaces, elle est pas jolie, elle chante trop fort, elle en fait trop. Voilà. Et ça, ça a été très, très agréable.
Je vous parlais de la boulette, je vous parle de rap et de hip-hop. C'est pas par hasard, Julie Zenati, ce registre musical, vous l'avez convoqué notamment dans un disque qui s'appelait La Boîte de Pandore, ouais. À travers des duos avec MC Solar, des collaborations avec Passy, avec IAM aussi. Dans le rap de votre adolescence, qu'est-ce que vous avez trouvé, au fond?
Ce que j'y ai trouvé, ça répondait à une rage. Moi je suis une jeune fille qui a vécu dans un quartier plutôt très cool mais j'étais dans un lycée qui était ouvert dans Paris, mais qui était ouvert à plein de banlieues, etc. Et donc, il y avait une grande mixité sociale. Et du coup, au travers du rap, on avait cette carte postale, entre guillemets, de ce qui se passait de l'autre côté du périph, et en même temps qui rejaillissait sur nous, les jeunes ados qu'on était, ce qui nous permettait à l'époque de pouvoir être unis dans une envie de faire avancer le monde, mais ensemble, d'un côté et de l'autre.
Il y avait ça,
périph.
Et puis il y avait aussi ouais. Quand même une qualité d'écriture.
Ah, mais je n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'il y avait des verbes, déjà, ce qui était une bonne nouvelle, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui, quand même. Hein.
Pourquoi?
Parce que enfin, moi, je trouve que le rap d'aujourd'hui, mais peut-être parce que je suis trop vieille, est un petit peu moins riche qu'à mon époque. C'est-à-dire que NTM, et vraiment, quand on lit les textes d'IAM, Assassin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe, c'était complètement fou. Quoi.
Qu'est-ce qui fait un bon texte pour vous, Julie Zenati, vous qui écrivez aux chansons également?
L'authenticité, je pense. Oui, l'authenticité.
L'authenticité et les verbes.
Et il est très important, une construction de phrase à peu près construite. Voilà.
Une histoire aussi, peut-être le fait d'avoir tout simplement une histoire à raconter, pour faire le lien avec ce que vous disiez sur cette conscience sociale.
Oui, bien sûr, d'avoir quelque chose à dire, mais d'avoir quelque chose à dire, que ça soit ou pour la raconter, ou pour la faire vivre à l'autre. Mais en étant très honnête par rapport à l'endroit où on se positionne. Moi, je sais que dans mes chansons, je n'ai jamais pu être, entre guillemets, un drapeau, parce que je parle parfois de choses dont que je connais, mais de loin. Donc c'est là où c'est important, en tout cas pour moi, il me semble, dans les chansons, d'être le plus honnête avec qui on est.
C'est intéressant que vous disiez ça. Dans Refaire danser les fleurs, j'ai l'impression que vous nous racontez aussi une histoire musicale. Oui. Celle de la variété française, en fait, des années 70 et 80. La musique de vos parents, de nos parents, en fait. Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Zenati, tiens?
Ah ben, on écoutait évidemment Gal Berger, Sanson,
évidemment.
Hardy, évidemment.
C'est le cas de le dire.
On écoutait un peu Balavoine, on écoutait aussi, mon père est féru de jazz, donc il y avait aussi beaucoup de jazz à la maison. J'ai commencé mes premières voix féminines, ça a été Ella Fitzgerald, Didi Bridgewater, ça a été Nat King Cole, et moi j'ai commencé à chanter avec Sinatra en duo, quoi, dans le salon de mes parents. Voilà.
Mais dans ces France Gall, Michel Berger, Véronique Sanson et autres qui apparaissent en fait en filigrane comme des fantômes dans cet album, Qu'est-ce qui faisait la qualité de ce son? Qu'est-ce qui caractérisait? Quelle mélodie? Quelles atmosphères? Quelle production? Parce que ce sont des questions, je suppose, que vous vous êtes posées là aussi en construisant ce disque.
Oui, c'est vraiment la force de l'harmonie. C'est-à-dire que chez Berger, il y avait une façon d'utiliser le piano. Il n'utilisait pas le piano comme juste un accompagnateur de son émotion, de sa voix ou de sa mélodie. Il utilisait le piano en duo, comme si c'était sa deuxième voix. Donc c'est toujours des harmonies qui sont très très riches, toujours un peu inattendues, quand on peut discuter avec quelqu'un et tout d'un coup on ponctue sa phrase de quelque chose qu'on n'attend pas pour justement qu'ils nous écoutent mieux ou plus. Il y a ça dans l'harmonie et dans les mélodies de Berger. Et puis cette texture en même temps qui est très enveloppante, qui est organique, mais où on sent l'humain derrière. Parce qu'évidemment, ce ne sont que des vrais musiciens. Enfin, Berger est connu pour les grands musiciens avec lesquels il a pu jouer. Et ça, c'est je pense, la spécificité aussi de cette musique-là, c'est qu'on sent les hommes derrière les instruments.
Et en même temps, vous le dites, c'est une musique qui surprend. Alors comment on fait justement pour surprendre en reprenant des musiques qui surprennent tout le temps?
Je sais pas trop comment ça est arrivé au bout de mes doigts, puisque j'ai commencé d'abord par composer avant d'écrire cet album. Tout ce que je sais, c'est que je pense que j'ai tellement entendu ces musiques-là. Et mon père joue du piano aussi, donc je l'ai vu poser ses doigts sur le piano et chercher les accords et chercher les harmonies comme s'il partait chercher un trésor, quoi, quelque part. Et du coup, je pense que, en fait, je me suis tout simplement replongée dans l'endroit où la musique était la plus douce pour moi. Et ma BO, c'est ces gens-là, en fait. C'est Gall, c'est Berger. Et c'est cette image de mon père qui cherche pour que l'harmonie aille absolument bien avec la note que je suis en train de faire, quoi.
Alors, on va chercher ensemble, Julie. On va tout faire valser. On va faire redanser les fleurs. Tiens, vous êtes sur France Inter avec Julie Zanatti. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
J'ai encore des choses à te dire. La nuit j'entends tes mélodies, toutes ces histoires qui me traversent. Au jour j'en fais des poésies. On s'est peut-être croisés sur un slow, au dos d'une lettre ou entre deux. À chaque printemps, une nouvelle peau. Refaire danser les fleurs. Je viens. Pour moi, quelques heures, c'est faire du bien. Toujours la même, mais en couleur. Des bacs, des flashbacks.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre l'oiseau tombé du nid et la sœur de Pascal, le grand frère. Parce que sous ses airs poussins ou Bambi se cache une badass repentie, prête à refaire surface à la moindre occasion. L'œil baisse les yeux, le cheveu fout à cagoule, tout en blondeur assassine derrière son faux pas de def. La chanteuse Julie Zenati, invitée de Boomerang ce matin, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre voix. Cette voix quand même qui n'est plus tout à fait celle de vos débuts. Comment vous l'avez vue évoluer, cette voix justement?
Comment je l'ai vu évoluer? Je l'ai vu évoluer, je pense, un peu avec, en même temps que la femme que je suis devenue. Au fur et à mesure que je me suis apaisée, au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure que je savais la place que j'avais envie de prendre, ma voix a changé.
Oui.
Et je crois que ma voix est devenue ma voix, presque quand je suis devenue maman, en fait.
On dit souvent d'ailleurs que la voix change,
oui.
À ce moment-là. J'ai l'impression que là, vous la posez vraiment différemment. Quelle texture, quel grain est-ce que vous avez cherché à lui donner ici, précisément?
De la douceur, j'essaye de lui donner de la rondeur. J'essaie d'utiliser ma voix, alors pour le coup, un peu moins comme un instrument, un petit peu plus d'utiliser ma voix comme ma voix parlée. En fait.
Vous parliez du piano, c'est un instrument assez important chez vous. Il paraît que votre mère chantait beaucoup accompagnée au piano de votre père.
Ouais.
Et vous chantiez au milieu des deux?
Non, j'écoutais ma mère chanter.
Elle chantait bien?
Ah, ma mère, elle chantait très très bien. Et ce qui est très bizarre, et alors ça c'est, voilà, je sais pas. Ma mère n'a plus chanté, ma mère ne peut plus chanter. Au moment où j'ai commencé à chanter, elle a perdu sa voix.
Et donc, c'est un truc de famille de perdre sa voix comme ça.
C'est fou, hein. Je crois que c'est son héritage.
Surtout qu'en plus, elle était partie pour la garder, puisque petite, c'était pas d'une carrière musicale dont vous rêviez, Julie. Votre rêve, c'était d'être contractuelle.
Oui, bah on a tous des rêves. Hein.
Oui,
c'était aussi pour le costume.
Cette fascination pour les contraventions, ouais. Vous pensez bien que ça m'a beaucoup intriguée. Pour les PV, pour les ouais. Prunes, c'est né comment?
Ouais. Alors, c'est d'une série, hein. La pervenche.
Ah, c'était la pervenche.
Mais vous vous souvenez de cette petite dame, hein?
Oui, tout à fait. Encore une fois, on a le même âge.
Voilà, de cette petite dame avec ce petit costume bleu. Je crois que j'ai toujours aimé ce petit costume bleu et je me suis toujours dit que ce petit costume irait bien.
Et quand est-ce que vous vous êtes dit, Julie, que vous faisiez fausse route, en fait, que cette carrière n'était pas faite pour vous?
Au moment où mes parents m'ont dit que j'allais continuer d'aller à l'école, déjà pour commencer, et que j'avais un petit peu le temps et je pouvais prendre un petit peu le temps, parce qu'après j'ai voulu être coiffeuse, donc je voulais qu'ils me basculent en BEP, mais j'étais pas assez mauvaise pour que du coup on me bascule, parce que à mon époque,
à l'époque, ouais, bien sûr.
En troisième, on nous orientait au moment où on n'avait pas tout à fait la moyenne, mais c'était pas tout à fait mon cas. Donc du coup, il a fallu continuer, et puis finalement, la chanson est arrivée. Quoi.
Et puis il y avait une passion quand même, qui était la passion des comédies musicales. Ah, ouais. Petite, il paraît que vous regardiez Grease en boucle, ce qui nous fait d'ailleurs un point commun encore aujourd'hui. Hein. Moi, quand je vois Judith Vintraube sur BFM TV, j'ai l'impression de voir Rizzo. Quand vous repensez à ces moments, Grease, quelles sont les chansons qui vous reviennent en mémoire immédiatement?
Ah, tout de suite, ben... Hopelessly devoted to you.
Ah, donc en fait, vous étiez Sandy, bah, je disais Nadine.
Bah, évidemment, on voulait tout être Sandy.
Non, pas vrai. Moi, je voulais être Danny Zuko ou Rizzo. Alors, la rose, sulfureuse, la méchante.
Non, mais je suis d'accord. Mais alors, la sulfureuse, moi, c'est beaucoup plus tard. Mais quand petite, je voulais être celle qui, la petite princesse qui ensuite se transforme justement en badass et écrase sa clope comme ça au sol. Tu vois, le truc.
Je vois bien. Voilà. En quoi chanter, c'est toujours une façon ou une autre incarner un personnage pour vous? Parce que c'est ça que vous nous racontez,
oui.
J'ai l'impression.
Oui, c'est incarner un personnage tout en puisant dans ce qu'on est. C'est faire en sorte qu'une chanson, enfin moi en tout cas c'est ce que j'aime quand j'écoute les autres, qu'elle soit assez poétique entre guillemets et assez large pour nous permettre de pouvoir nous identifier et que cette chanson nous fasse du bien dans son émotion.
Quand vous chantez, par exemple, Les uns contre les autres de Michel Berger et Luc Plamondon, dans Starmania 1979, Luc Plamondon, que vous connaissez bien, puisqu'on lui doit également Notre-Dame de Paris. Oui. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qui fait pour vous le génie de cette chanson?
Les mots, le texte, et la simplicité de la mélodie. Tout est dans les mots. Cette chanson a été construite pour mettre les mots en avant.
Et puis elle tombe bien aujourd'hui.
Ben, je crois que, en tout cas, oui, c'est ce qu'on rêve tous de ça, là, tout de suite.
Vous nous faites ce cadeau?
Avec plaisir.
On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns avec les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde.
Merci. Julie Zenati, c'est vrai que moi quand je la chante c'est pas exactement pareil, les uns contre les autres mais pas trop près non plus. Starmania en direct un mardi matin à Capella, c'est dans Boomerang évidemment, exclusivement Élise Christophe à la technique ce matin. Merci Julie d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Refaire danser les fleurs vient de paraître et que vous serez très bientôt en tournée si les conditions s'y prêtent, on l'espère, dans toute la France et notamment au Trianon en septembre. Tout de suite c'est l'heure des médias avec Jean-Philippe Ballas. Est-ce que vous m'entendez Jean-Philippe?
Ah bah j'entends bien, quelle chanson. Et quelle interprétation, bravo.
Quelle interprétation, donc je ne vous le fais pas dire.
Merci Augustin, demain.
Je vous embrasse et je vous dis à demain.